Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Aucune majorité absolue ne se dessine encore ce matin au Parlement israélien, mais les élections législatives d'hier, les troisièmes en moins d'un an, ont clairement bénéficié au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Son parti, le Likoud, et ses alliés de droite remporteraient 59 des 120 sièges à la Knesset.
Et puis l'autre chiffre à la une, Catherine, ce matin, c'est 14. 14 États choisissent aujourd'hui leur champion démocrate qui fera face à Donald Trump en novembre prochain.
C'est le Super Tuesday aux États-Unis. Bernie Sanders, le plus à gauche par favori, mais Joe Biden, plus au centre, espère rebondir dans les suffrages grâce au ralliement de Pete Buttigieg, de la sénatrice Amy Klobuchar et du Texan Beto O'Rourke.
Et puis en France, le nombre de personnes atteintes par le coronavirus a quasiment doublé en 48 heures. 191 personnes sont désormais touchées, 3 sont décédées.
La réforme des retraites et le recours du gouvernement au 49-3 ne passent toujours pas. 2 motions de censure aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'une à droite, l'autre à gauche. 2 députés quittent le groupe En Marche et puis Force ouvrière claque la porte de la conférence de financement.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on reviendra sur l'ouverture des archives du pape Pie XII. Faut-il s'attendre à des révélations? Je poserai la question à Laura Pettinaroli, elle est historienne et maître de conférences à l'Institut catholique de Paris.
Il revendique la plus grande victoire de sa vie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est réjoui cette nuit à Tel Aviv d'avoir remporté avec son parti, le Likoud, les élections législatives qui le placent pour la première fois en un an en position de force pour former le prochain gouvernement. C'est une victoire contre toute attente, a même reconnu Benjamin Netanyahou devant ses partisans. Lui qui est inculpé pour corruption dans une série d'affaires a ainsi fait mentir tous ceux qui prédisaient la fin de l'ère Netanyahou. Sauf que, le Premier ministre sortant et sa coalition de droite n'ont aucune certitude d'avoir une majorité absolue. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Tel Aviv où le Likoud donc de Benjamin Netanyahou devance la formation centriste bleu-blanc de Benny Gantz.
Voilà, et on a une certitude ce matin, Catherine, Benny Gantz n'aura pas de majorité absolue, sinon Benjamin Netanyahou, lui, peut encore l'obtenir, quitte à débaucher les 1, 2 ou 3 sièges nécessaires chez un parti du centre, de la droite nationaliste laïque, voire à gauche. Tout est possible à présent pour que Bibi, comme on l'appelle, essaie d'éviter une quatrième élection. Il a inversé la tendance, Benjamin Netanyahou, grâce à une campagne intense sur le terrain et sur les réseaux sociaux, et grâce à son discours très dur sur l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, avec la bénédiction américaine. Benny Gantz, lui aussi, a collé au plan Trump. Il s'est éloigné des Arabes israéliens et donc il s'est droitisé, ce qui a brouillé son image plutôt centriste jusqu'ici. Un mot sur les autres partis, la liste arabe est au plus haut depuis 20 ans et la gauche au plus bas depuis la création du pays en 1948.
Et maintenant Frédéric, que va-t-il se passer en Israël ?
Alors Benjamin Netanyahou va chercher, on l'a dit, à obtenir une majorité absolue de 61 sièges. Là, il va négocier tous azimuts. Benny Gantz, lui, dit attendre les résultats définitifs parce qu'il reste encore beaucoup de bulletins à dépouiller, notamment dans les casernes. Les soldats, nous disent les observateurs israéliens, votent plutôt à droite. Et puis surtout, Benny Gantz, qui pour l'instant est le chef de l'opposition à Benjamin Netanyahou, dit qu'il attend le procès de ce dernier qui doit s'ouvrir dans 2 semaines tout juste, dans un tribunal de Jérusalem.
Frédéric Mettezo, merci. Vous étiez en direct de Tel Aviv pour France Culture et les résultats définitifs, effectivement, de ces législatives, ne seront pas connus avant 48 heures.
7h04 sur France Culture. Voilà, allez, Catherine, ce n'est pas le corona, machin. Bref, à 7h04, l'autre actualité électorale, c'est bien sûr le Super Tuesday aux États-Unis, un super mardi dans le cadre de la primaire démocrate.
Avec un vote dans 14 États. Et avant cela, de bonnes nouvelles pour l'ancien bras droit de Barack Obama. Après une large victoire en Caroline du Sud samedi, Joe Biden peut désormais compter sur le soutien de 3 anciens candidats. La sénatrice Amy Klobuchar, le Texan Beto O'Rourke et surtout le benjamin de la course Pete Buttigieg, qui s'est rallié hier au centriste Biden. De quoi ragaillardir celui qui était distancé à sa gauche par Bernie Sanders dans les sondages pour ce Super Tuesday. Enjeu décrypté par Isabelle Raymond.
14 États américains votent en même temps lors de ce Super Tuesday, de la côte Est avec le Massachusetts et la Virginie, au canyon du Colorado, en passant par les terres du Sud afro-américaines de l'Alabama. Et puis surtout, deux États très peuplés. La Californie sera le plus gros pourvoyeur de délégués, 415 au total, devant le Texas qui lui en enverra 228 à la convention démocrate au mois de juillet à Milwaukee. C'est là que sera désigné officiellement par le parti celui qui affrontera Donald Trump au mois de novembre. Mais dès à présent, donc, le Super Tuesday permet de choisir un bon tiers des délégués en une seule fois, de quoi donner le ton pour la suite et qui sait dès maintenant faire émerger un candidat. Ils ne sont plus que 6, 2 ont jeté l'éponge ces dernières 48 heures, Amy Klobuchar et Pete Buttigieg. Michael Bloomberg, lui, entre en lice seulement maintenant, mais le milliardaire a dépensé sans compter, de quoi peut-être se faire une place entre Joe Biden et Bernie Sanders, qui lui espère bien conserver son avance.
Isabelle Raymond le disait, la qualification. L'État qui va octroyer le plus de délégués, 415 au total. Bernie Sanders fait la course en tête des intentions de vote. Lui, le démocrate le plus à gauche, séduit les plus défavorisés et les salariés des géants du numérique en Californie. Le reportage de Grégory Phillips dans la Silicon Valley.
Tous les trois, Mark, Brady et Jennifer, travaillent dans la Silicon Valley, mais par discrétion, préfèrent ne pas dire pour quel géant du numérique. On les rencontre à San Francisco, chez Mark, qui a une idée assez précise du candidat ou de la candidate démocrate qu'il aimerait voir affronter Trump en novembre.
Quelqu'un qui comprend la science, ça serait déjà pas mal. Mais tous les candidats encore en lice me semblent assez âgés. Senior, c'est comme ça qu'on dit. Je ne suis pas sûr qu'ils aient assez d'énergie pour effectuer les changements nécessaires.
Avec leur menace de démanteler les GAFA, Elizabeth Warren ou Bernie Sanders sont plus effrayés. Les dirigeants de grands groupes comme Facebook, Apple ou Google, Jason McDaniel est professeur de sciences politiques à l'Université de San Francisco.
Les compagnies elles-mêmes résistent au maximum à ces tentatives de régulation, voire de démantèlement. Donc elles sont très opposées à Warren ou Sanders. Mais les employés, c'est différent. Ils sont jeunes, très éduqués, ils s'intéressent à l'immigration, au changement climatique. La plupart d'entre eux soutiennent Bernie Sanders et sont en tout cas très opposés à Trump.
Dans cette région extrêmement riche, la Silicon Valley, c'est donc le candidat le plus à gauche qui séduit le plus les employés de la tech. Et le sénateur du Vermont est en tête des tout derniers sondages réalisés en Californie.
Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture en Californie, donc toujours aux États-Unis. Le vice-président Mike Pence, chargé de coordonner la lutte contre le coronavirus, affirme qu'un traitement pourrait être disponible d'ici l'été ou le début de l'automne. De premiers essais cliniques pour un vaccin pourraient même avoir lieu dans les 6 prochaines semaines, a-t-il déclaré hier. Alors que le nombre d'infections recule en Chine, le coronavirus, qui a déjà fait plus de 3000 morts dans le monde, peut-il menacer les Jeux Olympiques de Tokyo à moins de 5 mois de la cérémonie d'ouverture? La question qui agite le monde sportif sera au centre d'une réunion du CIO aujourd'hui et demain à Lausanne. En France, à présent, le nombre de personnes atteintes du coronavirus a quasiment doublé en 48 heures. 191 personnes désormais touchées, 3 sont décédées. Hormis 3 groupes identifiés dans l'Oise, le Morbihan et la Haute-Savoie, les personnes infectées se trouvent partout sur le territoire. La gestion de crise, une priorité pour l'exécutif qui bouscule son agenda, Stéphane Robert.
Le président de la République et le gouvernement sont confrontés à des exigences qui peuvent apparaître contradictoires. D'abord, il faut préparer au mieux la gestion de l'épidémie qui arrive, éviter que trop de personnes soient contaminées en même temps, ce qui engorgerait les hôpitaux. C'est l'objet des mesures de confinement et des restrictions au rassemblement. Il faut éviter que le virus se propage trop vite. Ensuite, il convient à la fois de prendre la mesure de la crise qui arrive, ne surtout pas la minimiser, contrairement à ce qui s'était passé en 2003 avec la canicule. Mais il ne faut pas non plus alimenter la crainte qui s'est emparée d'une partie de la population et générer des effets de panique. Un certain nombre de supermarchés ont d'ores et déjà été dévalisés de leurs produits de première nécessité et il n'y a plus de gel antibactérien dans un grand nombre de pharmacies. Il ne faut pas amplifier le phénomène. Il convient donc de donner un maximum d'informations et de conseils. C'est l'objet d'un point quotidien auquel s'astreint le ministère de la Santé. Et puis surtout, il faut coordonner l'action des différents ministères. Et ça depuis le plus haut sommet de l'État. Éviter à tout prix de reproduire la gestion de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen à l'automne dernier. L'improvisation et les prises de parole contradictoires de différents ministres avaient généré colère et inquiétude chez les riverains. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a annulé tous ses déplacements de la semaine. Nous hiérarchisons, indique l'Élysée, et le coronavirus est devenu la priorité. Pareil pour Matignon, même si le Premier ministre n'oublie pas complètement la campagne pour les municipales, il s'autorisera jeudi un déplacement au Havre.
Autre dossier brûlant pour le gouvernement après le recours à l'arme du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Il affrontera aujourd'hui deux motions de censure, l'une à droite, l'autre à gauche. Et puis en dehors de l'Assemblée nationale, de nouvelles manifestations à l'appel de la France insoumise notamment, ou encore de l'intersyndicale CGT-FSU-FO. Par ailleurs, Force ouvrière claque la porte de la conférence de financement. Vu le contexte politique, Yves Verrier, secrétaire général de FO, s'en explique.
Dès le départ, nous avions anticipé le fait que cette conférence n'irait pas à son terme. J'avais utilisé une image en disant qu'elle était confrontée à de tels courants contraires qu'elle n'arriverait pas à bon port. J'ai même parlé d'un naufrage annoncé. On y est, c'était évident. Or, il nous écrit dans la foulée de sa décision du 49-3 samedi soir, le Premier ministre, pour nous dire qu'il attend que la conférence continue ses travaux, mais au titre des mesures, il mentionne explicitement le fait que les Français devront travailler plus longtemps et il propose comme accompagnement de travailler sur la question de la pénibilité. Dans ces conditions-là, on voit bien que l'espace n'est pas celui de la négociation. Donc là, on a la démonstration de l'impasse qu'on pressentait et qu'on y est et que le moment est venu d'en sortir.
Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, il répondait à Anne-Laure Jumet. Après le 49-3 et bientôt la fin des vacances scolaires, les actions vont reprendre contre la réforme des retraites. Frédéric Rollet, à la tête du SNES-FSU, syndicat majoritaire dans le secondaire, a promis de nouvelles actions donc. Certains enseignants pourraient également faire remonter leur doléance à leur ministre au travers d'un questionnaire, car c'est aujourd'hui que Jean-Michel Blanquer lance une grande consultation auprès des 850 000 enseignants des écoles, collèges et lycées sur le métier de professeur au XXIe siècle. Les questions portent sur le ressenti professionnel, la progression de carrière, les rémunérations. Résultats restitués à la fin du mois. La Turquie a de nouveau agité hier la menace de l'arrivée de millions de migrants en Europe après l'ouverture de ses frontières. L'Europe qui dénonce un chantage inacceptable au moment où Ankara cherche un appui en Syrie. On y revient dans le journal de 7h30. Quelques mots du paysage médiatique dans le monde. La seule agence de presse nationale australienne va mettre la clé sous la porte après 85 années de présence dans le paysage médiatique national, faute de rentabilité. Et en France, Xavier Niel devrait permettre aux Antilles et à la Guyane de retrouver une presse quotidienne régionale. L'homme d'affaires a déposé une offre de reprise de France Antilles hier. Le seul quotidien de Guyane, Martinique et Guadeloupe avait cessé de paraître il y a un mois. Xavier Niel a donc proposé de reprendre un peu moins de la moitié des salariés. C'est un dossier à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce mardi 3 mars marqué par un risque d'avalanche dans les Alpes. Une alternance d'averses et d'éclaircies dans le reste du pays. Attention aux rafales de vent dans le sud-ouest. 6 départements ont été placés en vigilance orange. Les températures sont comprises ce matin entre 2 et 7 degrés de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Comptez de 0 à 4 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutus, 7h12 sur France Culture. L'ouverture des archives du pape Pie XII, on en parle dans quelques instants.